Père, maintenant nous te demandons que ta parole soit vraiment la lampe à nos pieds, la lumière sur notre sentier. Tu connais chacun ici présent, chacun d'entre nous. Tu veux nous visiter dans notre situation personnelle et nous donner aussi, Seigneur, des indications pour notre avenir. Comment marcher pour être plein de ta paix. Amen. Bonjour à tous. Je vous propose une lecture qui est très très connue. Mais bon, je vous préviens, on va faire un tour dans les champs. Il a plu hier soir, j'aurais dû vous prévenir, il faudrait mettre les bottes, mais voilà. Luc 8, les versets 5 à 8. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crûrent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Vous connaissez, beaucoup connaissent la suite, mais pour faire un tour dans les champs, on va garder ça en tête. Alors, je voudrais d'abord dire que ici, il est question de semeur et nous avons une promesse qui a été faite à Noé. Genèse 8, le verset 22. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été comme l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Il y aura des semailles, il y aura des moissons jusqu'au jour du retour du Seigneur. Ça, c'est une promesse. Ça, c'est la parole de Dieu. Il nous a donné sa parole. Et lui, quand il nous donne sa parole, il la tient. Le semeur sortit semer. Tu peux afficher le semeur. Ce n'est pas très, très... C'est un peu flou. Mais gardons cette image du semeur d'antan. Pas la machine avec 3 à 6 ou 8 mètres hein, qui sème des rangées bien, bien parallèles. Le semeur, il sème. Ce semeur, il sème avec énergie. Parfois, des artistes ont montré ou ont fait des croquis de semeur où le semeur, il marchait comme ça. Il jetait un peu de graines, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Le semeur qui avait son sac en bandoulière ou un récipient, ben, il y allait franco. Et il ne passait pas au milieu du champ. Il commençait sur le côté, et j'en ai encore semé comme ça. Il commençait le long du chemin, à 50 cm, il marchait et il jetait sa graine comme ça. Et le deuxième passage, c'était 1,80 m, 2 m plus loin, selon la taille du semeur. Il a les bras de la même taille, quoi. Et il recommence, il jette jusqu'au bord et il déborde autant de l'autre côté. Et ainsi de suite, et donc il couvre bien tout le champ. Les travers à la fin. Donc ce semeur, gardons cette image, il sort semer. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Dans 3 évangiles, c'est dit comme cela. Quels sont les incontournables pour semer? Qu'est-ce qu'il nous faut pour semer? Il faut un terrain. Bon, hein, il faut un terrain. Il faut de la semence et il faut le semeur ou des semeurs. Et le Seigneur a toujours gardé cette image de semence et de semeur. Les disciples qui sont porteurs de vie, c'est les semeurs. Prenons l'image du semis d'automne en Alsace. Prenons l'exemple du blé. Donc, on a cette image du semeur qui sort. Alors, souvent, en automne, 15 octobre, 15 novembre, la météo n'encourage pas à sortir. pour semer. La terre est collante, il fait froid, on est fatigué. Et il faut sortir. Un paysan, il ne va pas se dire, bon, j'ai pas envie. Dans Ecclésiaste 11, nous pouvons lire les versets 4 à 6. Celui qui observe le vent ne sème pas. Celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Comme tu ne sais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout. Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira, ceci ou cela, ou si l'un ou l'autre sont également bons. Alors, la parole de Dieu est une semence qui n'est pas à mettre en doute. Cette semence, elle est bonne. 2 Rois 20, elle est bonne. Elle est droite, psaume 33, 4. Elle est pure, psaume 12, 7. Elle est éprouvée, proverbe 30, 5. Elle est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée, hébreux 4, 12. C'est un feu, un marteau, selon Jérémie 23, 29. Une lampe, le psaume 119, verset 103. Douce comme le miel, psaume 119. Alors là, j'ai noté. Non, c'était, la première, c'était 105, la lampe, et douce comme le miel, c'est verset 103 du psaume 119. Elle est éternelle. Ça, c'est 1 Pierre 1, le verset 25. Et on pourrait continuer la liste. Ça, c'est la parole, c'est la semence du Seigneur. La semence de Dieu a une capacité de germination à 100%. Quand nous, on sème, on fait des tests de germination, les meilleures années, on touche à 95% de germination. Sur 100 grains, 95 germent. Une année comme il y a 2 ans, on était à 50%. La météo, les maladies, ce n'était pas ça. Selon la qualité, nous semons avec foi. Le paysan sort, il sème avec foi l'espoir que le résultat, il est là. Il ne viendrait pas à l'idée d'un paysan pour rallonger sa semence de mettre des graines stériles, qu'il sait stériles. On n'arrive pas à séparer celles qu'ils sont, on peut compter. Mais on ne va pas mettre des graines stériles dans sa besace pour augmenter le volume. C'est un non-sens. Cela nous encourage à utiliser la parole de Dieu dans toute sa puissance. Il ne faut pas l'alléger, il ne faut pas la diluer. J'ai noté 3 exemples. Jésus, seul chemin, seule vérité et la vie. Ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. On ne va pas dire qu'il y a d'autres choses. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus. Ça, c'est la Bible, ce n'est pas moi qui le dis. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je prends juste ces exemples pour dire que, voilà, cette parole, nous n'avons pas à l'alléger quand nous la donnons à quelqu'un. Et les disciples, ils osaient dire, voilà, il n'y a pas d'autre chemin. Si vous voulez être sauvés, il faut passer par là. On ne caresse pas dans le sens du poil. Sortons donc dans le champ que nous allons ensemencer. La terre a été préparée, labourée, hercée. Aujourd'hui, on a d'autres méthodes parfois, mais ça reste encore des possibilités. Parfois, elle colle. Elle a de grosses mottes de terre qui ne sont pas friables. Et on est là, qu'est-ce qu'on va faire? On va jeter la semence là-dedans? Les conditions sont rarement idéales à nos yeux. Et parfois, quand elle nous semble idéale, nous semons. Chaque graine est à la bonne profondeur, ça lève et il y a d'autres aléas climatiques. Parfois, on jette ça au-dessus, on peut à peine le couvrir, il y a un peu de brouillard et 3 jours après, les racines commencent à sortir du grain de blé. Ça, c'est des réalités. Et ça démarre. Alors, la semence est prête. Alors, je vais donc vous donner quelques chiffres. Normalement, on met à peu près 2 kg de grains de blé par are. Ça fait 2,5 litres pour 100 mètres carrés. Donc pour un hectare, c'est 200 kg, c'est une moyenne. Pour 10 000 mètres carrés, et ça fait 250 litres de blé, à peu près. Hein, parce que le blé, il ne pèse pas, le litre de blé ne pèse pas 1 kg. S'il est très bon, il est autour de 800 grammes. Alors, l'objectif est d'en répandre partout. Alors, juste pour une notion, la salle ici, elle fait à peu près 150 mètres carrés. Hein, je parle du bâtiment nouveau, là. Donc, pour ensemencer ça, normalement, ça fait 3 kg de graines à répandre régulièrement. Et ça fait, donc, vous pouvez calculer, ça fait 3,5 litres à peu près, hein. L'objectif est d'en répandre partout, régulièrement. Ça, alors ça aussi, c'est très important. On ne va pas jeter 200 kg dans un coin du champ. Hein? L'objectif, c'est de semer la parole, c'est de semer le blé, mais on essaye d'en mettre partout. Pas pour en finir rapidement, on fait un petit tour et puis j'ai fait mon job. C'est pas ça. Ça irait bien sûr plus vite si on n'est pas patient. Un semeur consciencieux la répandra partout, comme dans la parabole qu'on a lue. Il déborde sur le chemin, vous avez vu. Aujourd'hui, avec les machines, on peut vraiment être en limite, dans la limite du terrain. Il déborde sur le chemin, il en jette sur le sol pierreux, là où poussent les épines, et sur la bonne terre. Lui, son job, c'est de jeter le grain partout. Ce qui en advient, il ne peut pas, il n'a pas d'incidence lui-même. On pourrait dire quel gâchis. Le maître nous donne gratuitement la semence avec l'ordre de la répandre dans tout le monde. Alors si nous avons le choix, on ne va pas aller dans cet endroit, pourquoi aller au Liban, hein ? Il y a de la misère, c'est une terre hostile. Rappelons-nous qu'il est venu pour les malades, je pense la pierre, je pense les épines, hein, le bord de chemin. Il est venu pour les malades, les pécheurs. Le résultat lui appartient à lui. Il ne s'agit pas de surdoser fortement la semence. Si au lieu de semer 200 kg de blé hectare, j'en mets 300, si c'est trop dense, les plantes s'étouffent entre elles. Elles jaunissent, et en tout cas, il y a peut-être une récolte, mais elle est affaiblie. Les épis ne sont pas costauds. Parfois, un semis qui est sous-dosé est plus productif que même un semis dans les meilleures conditions. Si une plante, elle a des ressources, et elle en a, on verra ça un peu plus tard, elle peut vraiment s'épanouir et donner plus que si on respectait toutes les règles. Parce que les plantes deviennent plus vigoureuses. Alors, un agriculteur est limité par les surfaces qu'il a à sa disposition. Donc, si j'ai 15 hectares, je peux semer 15 hectares, je ne peux pas aller plus loin, et pour 15 hectares, fois 2, ben, il me faudra 3 tonnes de semences, hein, sommairement. Mais je ne peux pas en semer plus, je n'ai pas de terre à moi. Ce n'est pas le cas dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel. Le champ est énorme et le jour où la terre entière sera ensemencée, le maître de la moisson reviendra pour la grande récolte. Donc on n'a pas de limite. Un agriculteur peut être frustré, il aurait encore de la semence, il aurait du temps, il aurait les machines pour, mais il n'a pas de terre. Alors que ici, l'ordre, c'est le monde entier. Semer, c'est préparer l'avenir. Hein? Si je ne sème pas, ben, il n'y aura pas de récolte. C'est une question de vie ou de mort. Aujourd'hui, avec l'internationalisation, la mondialisation, on peut importer quand ça manque ici et là, mais les famines qu'il y a eu dans le monde, elles peuvent revenir. L'Église qui ne sème pas n'est qu'un pâle reflet de ce qu'elle devrait être. L'Église est appelée à semer. Si nous regardons un peu la parabole, nous sommes terre, grain et nous devons être semeurs. Je m'explique. Reconnaissons que nous sommes souvent ceux qui sont là. Je parle de ceux qui sont là. Nous sommes souvent terre à épines. La semence qui est sur le chemin, elle est écrasée, mangée, il n'en reste rien. Ça, c'est dans la parabole. Les oiseaux mangent quand c'est devenu de la farine. Celle qui est dans les pierres germe, dessèche, il n'en reste rien non plus. La semence au milieu des épines ne meurt pas systématiquement. Elle végète avec les soucis divers, richesses, plaisirs. Le résultat, pas de fruits qui viennent à maturité. On peut lire ça dans Marc 4, les versets 18 à 19, si tu peux les afficher. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'est des plants qui restent là. Il n'est pas dit que ces plants-là ils disparaissent du champ, mais ils ne peuvent pas se développer. À cause de tous ces soucis, à cause des besoins que le monde veut que nous ayons. Comme je l'ai déjà dit plus haut, le terrain présente rarement, je dirais jamais, les conditions idéales pour être ensemencé. C'est le maître, le propriétaire, qui le travaille à partir d'une friche. À partir d'une friche, il peut faire une terre fertile et prospère pour sa culture. Il voit l'état pitoyable des cœurs, mais il voit surtout le potentiel de ces mêmes cœurs lorsqu'ils se laissent travailler par lui. Un préalable pour débuter ce changement, là, c'est l'image du grain de blé qui nous est proposée. Jean 12, 24 nous dit « en vérité, je le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre, ne meurt. Il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » À un moment de notre cheminement, nous devons accepter l'évidence. Par nature, nous sommes condamnés à mort. Nous sommes morts à nos péchés. À cause de notre péché, nous sommes morts devant Dieu. Reconnaître notre mort spirituelle, comme dit Éphésiens 2, le verset 1, « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » Ça, c'est le constat que Paul fait pour ceux qui, avant, ne marchaient pas avec le Seigneur, morts au péché. Accepter le salut et la vie acquise à la croix par le sacrifice de Jésus, c'est passer de la mort à la vie. Intellectuellement, nous connaissons cette réalité de notre mort spirituelle. Mais Satan tente de flatter notre ego en nous susurrant que nous ne sommes pas si mal que ça. Dans Genèse 3, le verset 4, il est dit « Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. » Non, non, c'est pas si grave que ça. Cette mort-là, c'est encore un moyen de pression. Ça, c'est l'œuvre de Satan. Le menteur veut notre mort, la séparation d'avec Dieu. Dieu veut nous redonner la vie. C'est pour cela qu'il faut reconnaître notre perdition. Je reprends l'expression que j'ai déjà citée, je crois, deux fois. Notre Église est un ramassis de pécheurs graciés. Hein ? Nous ne sommes que ça. Nous étions morts. Et le Seigneur nous a graciés, et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Personne n'est plus grand que d'autres. te retrouves-tu dans cette appellation pour notre Église ? C'est encore jour de grâce aujourd'hui. C'est Jésus qui arrache de la mort. Arrête d'essayer de briller, de t'améliorer par tes vertus, tes capacités. Ce combat-là est perdu d'avance. Tu peux, tu dois naître de nouveau. C'est ce que Jésus a dit à Nicodème dans Jean 3:3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu parce qu'il est mort. Un mort ne peut pas entrer, un mort spirituel ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc nous avons vu la terre, nous avons vu la semence, le grain, qui doit mourir à lui-même, qui doit reconnaître, faire ce constat. Et puis nous allons passer au semeur. Lorsque le miracle de la nouvelle naissance est accompli en nous, quand nous avons la certitude du pardon, l'assurance du salut par le sang de la croix, nous devenons porteurs de la bonne nouvelle, semeur. Celui qui sème du blé fait confiance. Le pouvoir de germer, de sortir de la terre, de résister aux intempéries. Tu peux afficher. Voilà, donc, vous voyez, au mois d'octobre, novembre, on sème, et puis d'abord, il y a quelques petites racines à la germination. Avant que ça sorte par le haut, il y a des racines blanches, et puis ça démarre. C'est la germination. Après, ils disent 10 jours après, ça peut durer 6 semaines si jamais il fait frais. Hein. Mais bon, c'est une image. Et donc ça, c'est la levée quand le ver il sort. Après, au mois de mars, quelque chose qui est très, très intéressant, tu peux afficher l'autre image. Fin mars, début avril, quand vous prenez une tige de blé comme ça, vous la coupez avec une lame de rasoir, vous voyez l'épi qui est formé. Alors que la plante, elle est haute comme ça, dans la tige, vous voyez l'épi. Vous voyez juste le petit bout, là, devant son couteau. Vous voyez là le petit truc, ça, c'est un épi. Minuscule, mais il est là. Et on appelle ça le stade épi à 1 cm, parce qu'il est à 1 cm plus haut que le sol. C'est juste pour avoir une petite notion de ce que c'est que cette plante. Personne. Le gars, il a jeté sa semence, il a mis un peu de terre dessus, et là, c'est parti. Hein? Pardon, il faut que je retrouve ma piste. Donc, la tige, après, c'est le stade du talage. Vous avez une petite tige qui sort, et à un moment, début du printemps, fin hiver, tout à coup, cette tige se démultiplie. S'il y a beaucoup de place, on a déjà compté entre 10 et 20 tiges à côté qui partent. Il n'y a pas qu'une seule qui monte. Hein? Et donc, là, chaque fois, à l'intérieur, il y a un épi. On appelle ça la période du talage. Une tige peut se démultiplier dans les meilleures conditions, comme j'ai dit. Combien ça peut apporter. Et après, chaque tige, elle gonfle. Hein? Et on voit, au moment, en même temps, ça monte, et tout à coup, vous voyez que la tige, ben, tout à coup, au milieu de la tige, il y a une boursouflure. C'est l'épi qui est en train de monter et de grossir. Donc ça, c'est la montaison. Après, il y a l'épiaison, mais ici, on ne voit pas le gonflement dans le quatrième stade. Et puis, très, très rapidement, en quelques jours, il y a comme des télescopes qui sortent. Hein. Et le blé, qui était grand comme ça à ce moment-là, tout à coup, il monte, et en quelques jours... sans raccourcisseur, aujourd'hui on peut traiter du raccourcisseur pour limiter la hauteur, mais il monte à 80 cm, à 1 mètre, on a de l'épeautre qui est parfois, il me va jusque là, il a 1 m 60, 1 m 70, et ça en quelques jours, ça, c'est le miracle, et tout de suite paraît l'épi au-dessus. Pendant que l'épi il est là, il y a encore quelques feuilles qui sont un peu au-dessus, et tout à coup l'épi il est complètement au-dessus. Après, L'épi, il est à peine là, il y a la floraison. Trois, quatre jours après, il y a déjà la floraison, il y a du pollen, il y a comme des petites feuilles qui sont accrochées à chaque petite future graine. Et ça, ça va très vite. À partir de là, il faut patienter à peu près 6 semaines selon la météo. Et c'est la moisson. Et pendant ces 6 semaines, les grains se forment. D'abord, c'est comme du lait, vous écrasez, c'est laiteux. Après, c'est pâteux. Hein. Vous pouvez en faire de la bouillie, mais ça ne coule plus. Et après, l'amidon, et ça se transforme et ça durcit. Et vous avez le grain de blé final que, quand vous mordez dessus, ben, il explose parce qu'il est tellement sec. Et tout ça, personne ne peut y toucher. L'agriculteur, il peut mettre de l'engrais, il peut mettre du désherbant, il peut mettre de la protection fongique, comme on appelle ça. Mais dans tout ce que les étapes, ça, c'est depuis la création. Il jette sa semence et tout le reste est dans les gènes. Et c'est comme ça que fonctionne la parole de Dieu. Il faut quand même que nous revenions à notre semence spirituelle. Notre tâche, c'est de semer. Et le reste appartient au Seigneur. C'est pour ça que nous pouvons jeter la graine, s'il en tombe un peu sur le chemin, s'il en tombe sous les épines, sur le rocher. Le Seigneur sait. Et lui, il peut faire des miracles. Et le miracle de la parole, l'épée à double tranchant, c'est elle qui travaille. Nous n'avons pas besoin de persuader, citer la parole. Comme j'ai dit aussi, les inconditionnels de la Bible, hein, qu'il n'y a que ce chemin et pas d'autre, citer cela, le reste, c'est l'affaire de l'Esprit de Dieu. Ça, c'est les gènes du Seigneur. Nous sommes semeurs de la parole. Je vous propose juste de lire Ésaïe 55, les versets 9 à 11. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retourneront pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça, c'est Dieu qui met son sceau, sa puissance sur sa parole. Nous avons un ordre de mission. 1 Pierre 2, 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous êtes des annonciateurs, vous êtes des semeurs. Que faire pour semer? Ça, c'est la grande question. Comment puis-je semer? Alors, la première chose qui est logique pour un paysan, quand il sort semer, il emmène de la semence. Quand nous sortons dans notre quotidien, que portons-nous sur nous? Quand nous préparons nos journées, est-ce que nous cherchons de la semence auprès du Seigneur? Avoir de la semence dans sa besace, dans sa poche, dans son cœur, tous les jours. Il faut qu'on prie le Seigneur qui nous ouvre pour des rencontres, des occasions, que nos cœurs soient remplis de compassion pour nos contemporains. J'aimerais juste vous donner encore un petit témoignage. Ceux qui étaient présents à la fête de Noël ont entendu le poème que j'ai écrit. Et puis d'abord je me suis dit, est-ce que c'est de la vantardise si tu le donnes à d'autres? Et finalement, j'ai commencé à en distribuer dans le village. Alors parfois, des gens que je ne vois pas souvent, mais que j'ai des contacts, je les ai mis dans les boîtes aux lettres. 2-3 personnes sont venues vers moi, et étaient touchées et m'ont remercié. Après, maintenant, quand je traverse le village, c'est mieux de faire ça à pied. dès que je rencontre une personne, si j'ai une discussion, j'ai un peu de semence et je la donne. Et les gens reviennent vers moi. Il y en a qui reviennent vers moi. J'en ai donné, la factrice m'a donné le courrier. J'ai dit, j'ai un courrier pour vous. Et puis, j'ai vu la secrétaire de mairie, pareil. Et il y a 3 jours, 4 jours, j'ai croisé un adjoint. J'ai fait une boucle ailleurs dans le village. Tous les jours, je vais ouvrir aux poules qui sont ailleurs. Et donc, je vais à pied. Et je vois un adjoint au maire, avec qui j'ai quelques contacts. Et puis, on a discuté de la météo. Et puis, je lui ai sorti ça. J'ai dit, écoutez, j'ai quelque chose à lire. Si ça vous intéresse, vous pouvez le lire et le donner plus loin. Et le lendemain, je repasse au même endroit. Il est en train de gratter ses vitres. Et puis, il me dit, écoutez, mais c'est tellement juste ce que vous avez écrit. Mais il faut le répandre. Est-ce que vous autorisez à ce qu'on le mette dans le bulletin communal ? Alors, j'ai dit, écoutez, pour moi, il n'y a aucun souci. Après, c'est à vous de voir si, avec tout ce qu'on parle de laïcité, c'est possible. Ah, je vais voir avec la secrétaire, j'en sais pas plus. Mais le Seigneur ouvre des portes et il faut que nous transportions la semence. C'est ça. Et là, j'ai des personnes, déjà, il faut les voir et voir les personnes qui sont aimées de Dieu et que le Seigneur veut récupérer. Quand on a grandi avec des gens dans un village, on a ces idées. Nous, je ne parle pas pour les gens du monde, mais nous, on a nos idées, celui-là oui, celui-là non. Il faut semer. Et le Seigneur touche des personnes à qui on ne pense pas. J'ai vu un ancien prof, il a 88 ans, je lui ai mis dans la boîte aux lettres, je suis allé lui rendre visite cette semaine. Et puis, ah oui, le poème, lui, il veut l'encadrer. Alors j'ai dit, mais bon, c'est pas le contenant, hein, c'est le contenu qui est important. Alors il m'a dit, je respecte beaucoup les croyants, moi je suis athée. Et on a pu partir sur des points de ce poème, hein, par rapport à pas besoin de paraître, c'est Dieu qui connaît notre être. Et je lui ai aussi expliqué que j'en ai parlé avec vous dimanche dernier, entre la foi et la religion, de plutôt saisir la corde qui descend du ciel, la miséricorde, que d'essayer de mettre une échelle vers le ciel et de grimper, on n'y arrivera pas parce que c'est trop haut et il n'y a pas d'appui en haut. Et ça l'a touché, il était très très... On est resté ensemble 1h30 et on a discuté aussi d'autres choses, mais ça c'était le point central. Et comme j'ai pu signer ça, les gens me connaissent, et beaucoup c'est formidable, ils ne pensaient pas que je pourrais faire un truc comme ça. Mais pour moi, c'est donné par l'Esprit. Hein, et il faut simplement que nous nous mettions à disposition du Seigneur, et c'est une école. Hein. Demain, si je sors et je veux me forcer à aller vers quelqu'un, je serai raide, je risque de casser quelque chose. Mais il faut que ça travaille en nous. Mais l'idée doit rester. Nous sommes les semeurs. Nous devons, et si nous sommes des semeurs, il faut que nous ayons de la semence dans nos poches ou dans notre cœur. Si Dieu nous fait la grâce d'avoir la parole, Jésus a dit, quand on vous posera des questions, cela vous sera donné. Et c'est vrai, ça aussi c'est une promesse. Voilà, donc je vais arrêter là. Je suis désolé, on est parti un peu loin dans le temps. Je vais prier. Et Père, nous voulons te remercier parce que ta parole est vraiment puissante. C'est elle qui touche. Seigneur, parfois nous sommes convaincus d'avoir les bons arguments et rien ne se passe. Tu nous as demandé de jeter le filet. Et pour Pierre, c'était un moment où ce n'était vraiment pas le moment de pêcher. Et parce que toi, tu as donné l'ordre, il l'a fait et il a été béni. Et il a été bénédiction aussi, Seigneur. Donne-nous vraiment d'être des semeurs, simplement parce que tu es notre maître et que tu reviens bientôt et que ta moisson autour de nous, elle est bonne, elle est grande. Merci parce que tu veux nous garder en toi. Donne-nous ta paix à chacun, que nous ne soyons pas frustrés, Seigneur, mais que simplement nous mettions du temps à part pour ta parole, pour comprendre et pour pouvoir la transmettre. Amen.